Vous m'entendez bien comme ça ?
Je vous propose de commencer par prier. Seigneur, je te remercie pour ce matin, parce qu'on a la joie de pouvoir se réunir dans ta maison. Je t'invite parmi nous ce matin, pour qu'on puisse vraiment passer du temps avec toi, qu'on puisse se concentrer sur toi et ta parole, parce que c'est toi l'important, c'est toi la personne qui est importante ici. Je veux vraiment que tu puisses nous donner ton esprit, que tu puisses articuler mes mots et que tu puisses ouvrir nos oreilles ce matin. Amen. Je vous propose une lecture issue du livre d'Ésaïe, que vous allez trouver dans le chapitre 43, et je vais vous lire les versets 1 à 8. Un seul sauveur pour Israël. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, et l'Éthiopie et Saba en l'échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes filles, mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Laisse sortir le peuple qui est aveugle tout en ayant des yeux, et qui est sourd, bien qu'il ait des oreilles. Au regard de ce texte, je pense qu'il y a trois points qui sautent un peu aux yeux. Déjà, on voit un Dieu qui est prêt à nous délivrer. C'est dit dès le verset 1. « Je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Un Dieu qui délivre, qui nous sauve, qui est prêt à nous racheter. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il le dit au verset 4. C'est un Dieu qui nous aime. Oui, parce que tu m'es précieux, que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Et vu qu'il nous aime, ce qu'il essaie de faire, comme des parents avec leurs enfants, il les rassemble auprès de lui. Alors, ce n'est pas le verset 4. Je me suis trompé ici sur la référence. Je cherchais. Hop. Je vais revenir, je crois que c'est verset 5. Verset 6, pardon. « Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. » Il les ramène des quatre coins ici, des quatre coins du monde, il essaie de les rapporter. Et le livre d'Ésaïe, il est connu pour avoir plein de paroles réconfortantes, des paroles de paix, des paroles d'amour comme cela. Je donne quelques exemples issus d'autres chapitres. Ésaïe 41, verset 10, « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé. » Car moi, je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Ésaïe 43, verset 25, mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions, par égard pour moi-même, et je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Et un dernier que je vous propose, Ésaïe 55, verset 1, vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Vous-même, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. On sent quand même dans ce livre qu'il y a quand même plein de paroles qui sont chouettes, qui nous donnent du baume au cœur, qui sont là pour nous réconforter. Tout le champ lexical qu'on trouve autour de ça. De l'amour, rassembler, pardonner, délivrer du péché. Et on sent que Ésaïe, quand il écrit ça, c'est dans une période un peu difficile. Parce que le contexte un peu autour, on parle de racheter, on parle d'esclavage, on parle de rassembler des confins de la terre. On sent qu'il écrit un moment où le peuple de Dieu, il n'est pas bien à ce moment-là. Et c'est vrai que si on replace un peu de contexte historique, quand il écrit ses différents chapitres, on fait une petite frise chronologique, après le règne de Salomon, le royaume explose en deux. On est parti sur la carte, il y a la partie bleue au nord, où il y a la majorité des tribus qui décident de ne plus se rallier au roi d'Israël, parce qu'ils ne sont plus d'accord avec lui. Et donc, il crée donc le royaume d'Israël au-dessus, dont la capitale est donc Samarie. Et une poignée, une seule tribu qui reste au sud, pour faire le royaume de Juda, qui, eux, s'attachent encore au roi qui est descendant, qui est issu de la lignée de David. Mais durant tous les siècles, plutôt toutes les décennies qui vont passer, ça ne va pas très bien se passer. Le peuple désobéit quand même énormément à Dieu. Et on va assister en deux temps. D'abord à la chute du royaume d'Israël, qui va totalement disparaître de la carte, et dont les peuples vont totalement être perdus. On parle même des 10 tribus perdues qui ne seront pas retrouvées après le retour d'exil. Et ensuite, en un second temps, cette fois-ci c'est Jérusalem qui va être pris par les Babyloniens, et Juda va partir en exil à Babylone. Ils vont partir à peu près en moins 586, et presque 50 ans plus tard, ils seront enfin de retour d'exil. Donc 50 ans d'exil, où Jérusalem ne sera plus qu'une ruine à ce moment. Et donc, Ésaïe, on comprend qu'il a besoin d'aider ce peuple qui, finalement, est dispersé, qui est loin de chez lui et qui est en exil. C'est bizarre, par contre, il y a un petit problème dans la chronologie. Ésaïe, il n'est pas du tout du moment de l'exil. Il est bien avant. Il est quasiment 150 ans plus tôt. C'est bizarre. Comment ça se fait que Ésaïe soit capable de parler de l'exil alors qu'il ne l'a pas vécu? Comment ça se fait que ce prophète donne des paroles d'encouragement, de réconfort, et donne dans beaucoup de ses passages des moments d'aide au peuple en exil, alors que Ésaïe n'a pas vécu l'exil? On peut essayer de remonter un peu dans les chapitres, hein, voir si je ne me suis pas trompé dans mes lectures, hein, est-ce que je me serais trompé d'endroit ou autre. Je propose de lire l'introduction du livre d'Ésaïe. Donc, Ésaïe 1, versets 1 à 9. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Atmos, au sujet de Juda et de Jérusalem, sous le règne d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Juda et sur Israël, Juda est bien malade. Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfant corrompu. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion? Car déjà, votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon en état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé ni bandé, ni soigné avec de l'huile. Le pays que vous habitez est dévasté. Vos villes sont détruites par le feu, vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté, détruit par des envahisseurs. Et Sion est resté comme une hutte au milieu d'une vigne, comme un abri dans un champ de décombres, comme une ville entourée d'armées d'ennemis. Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ne nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerons à Sodome et nous serions comme Gomorre. C'est bizarre, c'est pas du tout le même thème que je vous ai lu au début. Il y a quand même un gros contraste entre les deux. Le chapitre 1 ici est quand même assez sombre, assez accusateur, alors que les chapitres que je vous ai lus juste avant, 40 et plus, sont dans le réconfort, sont doux, sont aimants. En tout cas, je ne me suis pas trompé, hein. On a bien parlé du royaume de Juda, c'est dit dans le verset 1, et on peut situer la période de temps entre les différents règnes donnés, donc Ozias, Yotam, Ahaz et Ézéchias, et cela se passe bien, bien avant l'exil. Et on constate ici que c'est un Dieu qui est en colère. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfant corrompu. Si Dieu, le Père d'Israël, dit ça à ses enfants, c'est quand même assez choquant, assez, comment dire, perturbant. On peut même se poser la question, est-ce que c'est pas un Dieu qui jette l'éponge à ce moment-là ? Il le dit au verset 5. Où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion ? À ce niveau-là, au moment où Ésaïe écrit ces mots, le moment qu'il vit, on passe une période de temps difficile. Beaucoup de crises politiques, un moment où le royaume de Juda, donc je rappelle donc c'est la partie sud, décide finalement de ne pas faire confiance à l'Éternel et de faire appel aux Assyriens, qui sont les méchants, enfin les ennemis que Dieu présente comme étant l'ennemi du peuple. Il préfère faire confiance aux Assyriens plutôt que de faire confiance à Dieu. Et Dieu, au bout d'un moment, on comprend qu'il en est marre. Parce que si on remonte même tous les chapitres avant, tous les livres avant, déjà les rois avant, c'était pas forcément terrible, ça donnait quand même beaucoup à l'idolâtrie. On se rend compte qu'il y a beaucoup de dépravation, qu'il y a beaucoup de mal qui se passe dans le pays. Et on pourrait même se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu aime encore ce peuple ? Et en lisant ces passages-là, on comprend que ça ne va pas bien se finir si ça continue sur cette trajectoire. Mais par contre, on a toujours ce problème. Pourquoi est-ce que le début est si méchant, et si dur, et si violent ? Et pourquoi la suite, de son côté, est beaucoup plus douce, paisible ? En fait, quand on prend le livre dans son ensemble, on a l'impression que c'est plusieurs personnes qui écrivent. Parce que si on découpe finalement les différents chapitres avec la chronologie, on se rend compte qu'il y a le moment où Ésaïe est en vie, donc aux alentours de moins 740 à un petit peu, je sais, moins 680 à peu près, donc les chapitres 1 à 39, où ici, Ésaïe décrit clairement ce qui se passe dans le royaume, et il n'y va pas par quatre chemins. Il critique énormément le peuple. Puis ensuite, on se retrouve au début du chapitre 40, où dès le début ici, on annonce la fin de l'exil de Babylone. Donc il y a un gros trou au milieu où on n'a pas de passage qui correspond à cette partie historique. Donc on saute le moment où Juda va se faire envahir par Babylone et va se faire déporter en exil, à directement la fin de l'exil, l'annonce de la fin de l'exil. Donc c'est à peu près des chapitres 40 à 55. Et 55 et plus, ça parle beaucoup de la reconstruction, de ce que va faire le peuple après. Et donc, si on prend ça sur une telle période de temps, on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est la même personne qui écrit ce livre ? Alors j'ai essayé de faire un peu le pour et le contre, à la fois de ce qu'on trouve dans les livres, mais aussi de ce que l'archéologie a pu retrouver. On a déjà commencé par la partie, est-ce qu'il ne serait pas plusieurs ? Déjà, je vous l'ai dit, la période temporelle est énorme. Même si maintenant Ésaïe avait vécu longtemps, il n'aurait pas pu écrire sur plus de 250 ans. C'est un peu compliqué, on va dire. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a vraiment trois passages bien distincts. Les chapitres 1 à 39 sont très accusateurs, ont beaucoup de détails historiques. Ceux de 40 à 55 sont beaucoup plus consolateurs, parlent de la fin de l'exil, de Dieu qui est prêt à racheter son peuple et le sauver. Et les chapitres 55 et plus, qui, eux, de son côté, sont plus des prophéties sur l'avenir, d'une nouvelle Jérusalem qui va venir. Et enfin, il y a plusieurs détails historiques aussi, qui finalement montrent le fait que cette personne a dû vivre à ce moment-là. Dans les chapitres 40 à 55, on parle par exemple de Cyrus le Grand, celui donc qui va envahir Babylone par la suite et va donc décréter la fin de l'exil pour les Juifs. Cette personne-là, Ésaïe, si lui vivait bien avant l'exil, il ne pouvait pas connaître son nom. D'autres arguments aussi, même si maintenant ce livre est attribué par tradition à Ésaïe, le livre il est grand, 66 chapitres. En général, il y a une coupure entre les deux. Il y a deux rouleaux qui existent, donc on pourrait se dire, s'il y a plusieurs rouleaux, est-ce que ce serait plusieurs personnes qui écrivent cela ? Et donc une théorie arrive au XVIIIe siècle à peu près, en disant que potentiellement, il y aurait donc plusieurs auteurs. Et la théorie, ce serait que Ésaïe a écrit durant son vivant, mais a créé une école de disciples, qui, elle, a vécu l'exil, qui a vécu le retour de l'exil et donc qui a complété son œuvre petit à petit. Cette partie-là, par contre, elle est peut-être un peu triste. Ça veut dire que finalement, tout le livre d'Ésaïe, bah, c'est juste des personnes qui constatent ce que Dieu fait à un moment donné, mais n'ont pas de vision. Ce n'est pas finalement un livre prophétique, alors. À ce moment-là, c'est juste des personnes qui voient l'histoire évoluer et qui disent à un moment donné qu'est-ce qui se passe. La première interprétation. La seconde, auquel on s'attache un peu plus, c'est celle où il n'y aurait qu'un seul auteur. Alors il faut se dire, mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il arrive à voir si longtemps et qu'il ait pu écrire sur une telle période temporelle ? Déjà au niveau du style, je vous ai parlé comme quoi le premier est plutôt accusateur, la suite est plutôt poétique, la dernière plutôt prophétique. On peut se dire aussi déjà que bah, l'auteur, il écrit sur plus de 50 ans. Entre moi à l'âge de 20 ans et moi à l'âge de 70 ans, a priori, j'aurais peut-être probablement des changements. Je n'écrirai pas de la même manière, j'espère que j'arrêterai de faire des fautes d'orthographe. Je me dis que sur l'évolution totale, c'est normal que je vais changer de style d'écriture, par l'expérience, par le constat, par ce que j'aurais vécu. Il y a aussi des détails qui manquent finalement dans ce passage-là. Je vous ai dit qu'il y avait des détails historiques comme Cyrus le Grand, mais dans d'autres prophètes qui, eux, ont vécu l'exil, ils parlent de la vie à Babylone. Ici, l'auteur ne parle pas de comment ça s'est passé, il ne parle pas de comment se passe l'exil. Ce qu'il décrit, c'est juste qu'est-ce qui va se passer après l'exil. Mais lui, en tant que tel, ne semble pas avoir vécu cet exil. Il ne sait pas à quoi ressemblent les jardins de Babylone, il ne sait pas à quoi ressemble la vie là-bas, il ne sait pas à quoi ressemblent les coutumes. Il ne le décrit pas dans ses livres. Et enfin, ce serait aussi bizarre de se dire qu'on associe plusieurs auteurs, parce que les chapitres les plus connus, ce sont les chapitres 40 à 55. C'est ceux-là qui approchent le plus de réconfort. Il serait bizarre de se dire que finalement, le disciple qui a succédé à Ésaïe soit beaucoup plus connu que Ésaïe lui-même et qu'on ait oublié son nom. C'est un auteur inconnu à ce moment-là, parce que personne ne dit comment est-ce qu'il s'appelle. Ce serait bizarre à ce moment-là que Ésaïe ait écrit quelque chose, que tout le monde l'ait retenu lui, mais pas ses écrits, et que plus tard, quand une autre personne complète ses travaux, ses écrits deviennent vraiment célèbres, mais que tout le monde oublie qui a écrit cela. Ce serait assez bizarre. Il faudrait peut-être une preuve aussi, peut-être. Et c'est là où les manuscrits de la Mer Morte sont intéressants, parce que c'est la première fois où on trouve un rouleau complet, où il n'y a pas de coupure entre les deux, et de se dire à ce moment-là, s'il y a un rouleau complet, potentiellement c'était bien une œuvre complète, une seule personne qui a écrit cela. Alors comment finalement recoller tous ces bouts, comment expliquer tout cela ? L'interprétation qu'on garde souvent, cela va être le suivant. Celle qu'en effet, il n'y avait qu'un seul auteur, le prophète Ésaïe, qui lui a vécu le fait que le peuple n'était pas obéissant à Dieu, que le peuple était en souffrance, et que lui, d'après ce qu'il voyait, il a compris que l'exil était inévitable. 100 ans plus tôt, il a compris que le peuple allait droit dans le mur. Et Dieu lui a confirmé cela en disant, en effet, ils ne peuvent pas continuer comme cela, il faut que j'intervienne. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ce peuple. Mais toi, tu as une mission. Je vais te la révéler, c'est que c'est moi qui va venir sauver ce peuple. Je vais l'envoyer en exil, certes, pour lui apprendre, finalement, pour le faire progresser. Mais dans cet exil, ils vont apprendre des choses. Et toi, ta mission, ça va être d'expliquer, pour ceux que tu ne connaîtras pas, dans 100 ans, qu'est-ce que je vais faire pour eux et comment les réconforter. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer que les premiers chapitres sont plutôt accusateurs, parlent de l'histoire, et que les suivants sont consolateurs pour que ceux qui vivront l'exil puissent avoir une source d'espoir. Alors, on peut se dire aussi maintenant, bon, d'accord, il a une révélation. Dieu lui a montré l'avenir, ce qui va se passer. On peut lui poser la question, mais jusqu'où vont ces révélations ? Jusqu'où Dieu lui a montré son plan ? Je donne quelques pistes. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Ça vous dit quelque chose, ça ? Bon, je continue. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Toujours pas, je continue. Ésaïe 53, verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est pour ses blessures que nous sommes, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il y a beaucoup de passages d'Ésaïe qui montrent bien avant, et donc bien avant l'exil, mais enfin bien avant la venue de Jésus, mais bien avant même l'exil, que Dieu avait un plan pour sauver son peuple. Si vous lisez les chapitres 42 à 53, il y a quatre chants, enfin, c'est ce qu'on appelle des chants, qui parlent d'un serviteur souffrant et qui sont clairement attribués à Jésus. Il y a aussi énormément de métaphores que Jésus va reprendre. La métaphore de la vigne, de l'armure divine, de l'épouse ou de l'époux que Dieu vient chercher. Tous ces passages-là montrent bien en avance que Dieu a un plan et qu'il va envoyer une personne qui s'appelle Jésus. On retrouve ça donc à ce moment-là, donc près de 1700 ans avant que la venue de Jésus est annoncée. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que même quand c'en est trop, même quand Dieu en a marre, même quand Dieu est prêt à jeter l'éponge, il trouve quand même un plan pour venir nous chercher. Et ce qui est d'autant plus important dans cette partie-là, c'est que dans les passages d'Ésaïe, il y a de nombreuses références qui parlent du salut des non-juifs, de comment est-ce que Dieu va rapporter ses enfants qu'il a créés du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. C'est ce que je vous lisais dans les premiers chapitres au début de ce message. Ça, c'est intéressant parce que le peuple a été déporté vers Babylone. On connaît la direction. Pourquoi est-ce que Dieu se prend la peine, pourquoi est-ce qu'Ésaïe prend la peine de dire que Dieu rapporte son peuple des quatre coins du monde? C'est parce que nous sommes tous ses enfants et qu'il veut tous essayer de nous rapprocher auprès de lui. Ces promesses et ces paroles qui sont dans ce livre sont donc universelles. On peut s'en saisir. Elles sont valables pour nous et elles sont valables encore aujourd'hui. On peut retenir alors cette chose, c'est que en tout temps, Dieu est la source de notre libération, de notre pardon. C'est vers lui qu'on peut se tourner. Peu importe l'état où nous sommes, il sera prêt à nous racheter. Et qu'on peut lire ces chapitres comme étant une source de réconfort et de soutien, parce que c'est ce que Dieu veut nous offrir. Je vous propose de relire encore le passage au début, et que cela puisse vous servir de réconfort si vous en avez, ou que vous puissiez le transmettre si vous connaissez des personnes qui ont besoin de soutien. Un seul sauveur pour Israël. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, et je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, rends-les, et au Midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent ton nom et que j'ai créé pour ma gloire, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Laisse sortir le peuple qui est aveugle tout en ayant des yeux, qui est sourd, bien qu'il ait des oreilles. Je prie encore pour terminer ce message. Seigneur, je veux te remercier parce que ton amour est infini. On a beau faire tout ce qu'on veut, tu essaieras toujours de nous chercher, toujours de nous racheter. Pour ça, je veux te remercier parce que on ne peut pas être digne d'un tel amour, mais tu nous aimes quand même. Je te prie pour tous ceux qui ont des soucis, tous ceux qui ont besoin de réconfort, que ces paroles puissent résonner encore aujourd'hui, que ces personnes puissent saisir ces promesses, ces paroles que tu donnes, et qu'on puisse s'attacher à toi jour après jour, en sachant que ces promesses sont valables pour nous et sont toujours valables aujourd'hui. Amen. Je vous propose d'être une petite improvisation.